كل فم يا كي يتم شو شلون وسيدي ما بدي لا بلاص شلون بدي مونومون شلون بدي Je citais mon beau-père. Ah, mm-hmm. Oh, vous étiez ta famille.
Et vous, vous le rencontrez quand? À quelle époque vous rentrez dans la famille Chavant? Vous êtes mariée?
Je rentre dans la famille Chavant en 45.
D'accord.
J'ai connu mon mari en 41 par les hasards de l'éducation nationale. Mm-hmm. Moi, j'étais normalienne, je sortais de l'école normale. Mm-hmm. J'avais déjà un an de... J'étais dans un hameau de Saint-Georges d'Espérance où j'enseignais depuis un an et j'ai connu mon mari à la première conférence pédagogique qui, lui, en 41, à la rentrée d'octobre 41, a été nommé comme suppléant à Saint-Georges d'Espérance au village. C'est là qu'on s'est vaguement, quand tout le monde se présentait, quoi qu'on s'est connu, si on peut dire. Et puis, comme nous étions plusieurs jeunes dans le secteur de notre inspectrice, c'était une inspectrice de l'éducation nationale, elle avait quelques-unes des filles en particulier, sortaient de l'école normale, donc avaient été formées, mais il y avait plusieurs suppléantes qui sortaient du brevet supérieur, puisque c'était le brevet supérieur à l'époque, et qui n'avait pas de formation pédagogique, alors qu'il nous a convoqués une fois pour voir une leçon modèle à la Verpillière. De Saint-Georges d'Espérance à la Verpillière, à cette époque, il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas de voie de communication, il n'y avait qu'un vélo. Et une institutrice jeune, qui avait été à l'école normale d'ailleurs avec moi, qui était à Saint-Georges village, a dit à mon mari, eh bien moi je sais par où passer, il faut passer, et si vous voulez, j'ai une camarade d'école normale qui est à Combrousse, puisque ce village s'appelait Combrousse, sur la route, sur le chemin, qui conduit à la Verpillière, on peut la prendre en passant. Et nous sommes allés à vélo, tous les trois, où nous avons rencontré d'autres camarades. On a assisté à l'action modèle et à la sortie, on a, disons, critiqué l'action modèle. En particulier,
qui n'était pas si modèle que ça, alors.
Comment?
Qui n'était pas si modèle que ça?
Non, ça n'était pas modèle du tout. Du tout. Et surtout pas pour les normaliennes que nous étions, parce qu'il se trouvait qu'il y avait deux ou trois normaliennes qui avaient une formation pédagogique de l'époque et qui étaient autre chose, quoi, que celle de maintenant, disons. Mais enfin. Bon, et que n'avaient pas évidemment ceux qui étaient simplement suppléants, qui sortant du brevet supérieur, arrivaient dans l'enseignement sans connaître absolument rien. Et on a bavardé ensemble, on est rentré, et puis arrivé à Saint-Georges d'Espérance, donc au village, les collègues de mon mari, de l'école de garçons, parce qu'à ce moment-là, l'école de filles, l'école de garçons, moi, j'avais fille et garçon, puis j'avais qu'une classe. Lui demande alors comment ça s'est passé à la Verpillière, qu'est-ce que vous avez fait à la Verpillière. Il raconte à la Verpillière, bon, ce que nous avons vu, ce que nous avons fait. Et puis, ils disent, mais j'étais avec André Tolède, qu'il connaissait puisqu'il était au village, et Mademoiselle Barbier qui était à Combrousse. Qui est cette Mademoiselle Barbier? Alors, les instituteurs lui ont dit qui j'étais normalienne, etc. Bon. Et puis, plusieurs fois, il les relance en demandant, paraît-il, en leur demandant, finalement, son directeur, à ce moment-là, fait, mais qu'est-ce que tu attends pour venir la voir? Voilà.
Et entre 41 et 45, vous le revoyez régulièrement?
Alors, entre 41 et 45, non, parce que mon mari donc avait donc cette suppléance en 41. Mais, au printemps, il a été appelé pour le chantier de jeunesse. Donc il est parti de ce moment-là. Enfin, nous nous étions vus, et à ce moment-là, c'est surtout par correspondance.
Et vous aviez connaissance de l'engagement de votre beau-père?
Alors,
à cette époque-là?
Tout à fait. Un peu, mais pas beaucoup, parce que mon mari lui-même n'avait pas la connaissance du total, ne savait absolument pas. Et je l'ai su un petit peu au cours de ce qu'on a vu. D'ailleurs, mon mari n'allait plus chez lui. Mon beau-père avait vendu son café. Il était parti, il était dans la nature. Et il ne venait plus jamais chez lui. Et son fils, la même chose. Il était jeune. Lorsqu'ils ont vendu le café, 8 jours après, le quartier de l'île Verte a été cerné. On recherchait M. Chavant. M. Chavant, on ne savait pas où il était. On est venu, c'est la milice à ce moment-là, qui, à ce moment-là, quelque temps après, 8 jours après, je crois, est venu chez ma belle-mère. Ma belle-mère habitait cette maison, mais habitait seule. Pour chercher mon mari, pour chercher des armes, ils ont fait une inspection des lieux. Puis, où est votre mari? Mon mari, j'en sais rien. Je ne sais pas.
Et effectivement, elle ne le savait pas pour la protéger, il ne lui disait pas tout.
Non, il ne lui disait pas tout d'une part. Et d'autre part, pour la protéger, finalement, elle avait demandé, entre eux, ils étaient d'accord ensemble, pour demander le divorce. Et elle a demandé le divorce, à ce moment-là, pour abandon de domicile. Et mon beau-père était très discret. Il ne venait jamais. Quand il venait, la maison de la Croix-Rouge, c'était une villa au milieu d'un jardin, et qui avait un accès sur une autre maison, une maison mitoyenne, et un accès sur une rue. Ils étaient en très bon terme avec cette maison mitoyenne, et il y avait une séparation, mais il y avait une porte. Et ils savaient que s'ils venaient, ils pouvaient s'échapper de l'autre côté, personne ne connaissait cette sortie. Et mon mari, la même chose, quand il allait voir sa mère, il prenait des précautions, et il savait que il pouvait par derrière de la fenêtre sauter et aller ailleurs. Si bien que mon mari n'allait jamais chez ses parents, chez sa mère, ou très rarement. Et mon beau-père était d'une grande, pour lui la clandestinité, ça a été la clandestinité. Et à ce moment, lorsqu'il a quitté le café de l'île Verte, il est allé directement, bon, ma belle-mère savait, son fils le savait aussi, à Champs-Rousses, qui n'était pas une station à l'époque. Mais il connaissait un charbonnier, enfin un commerçant de Grenoble, comment il s'appelait, bref, qui faisait des travaux forestiers à Champs-Rousses, et qui l'a emmené à Champs-Rousses pour faire des travaux forestiers. Il était forestier à Champs-Rousses, mais personne ne savait où il était. Bon. Donc mon mari le savait. Mon mari, enfin, André le savait. Enfin, il n'est jamais allé le voir là-haut. Bon. Et puis, l'enchaînement s'est fait. Je reviens à André, à mon mari. Lui, après son stage, si on peut dire, enfin son passage au chantier de jeunesse à Remilly, il a eu la proposition de l'éducation nationale pour faire un stage de formation pédagogique à Grenoble. Moi, je suis sortie de l'école normale en 40. Je suis la dernière promotion de véritable normalienne. Après, les écoles normales ont été fermées. La directrice des filles, elle a été mise à la retraite. Chez les garçons, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais en 40, ceux qui avaient réussi, qui avaient déjà passé le concours, ne sont pas rentrés à l'école normale, ils sont rentrés au lycée. Les filles à Stendhal, les garçons à Champollion, ils ont fait leurs études. Et alors ils ont continué, eux, pour le baccalauréat, il n'y avait plus le brevet supérieur. Mais restaient, après quand je suis sortie de mon 40, il restait 2 autres promotions. Alors ces promotions sont restées dans les locaux de l'école normale, tout au moins chez les filles. Chez les garçons, je ne sais pas. parce que c'était très cloisonné, on ne savait absolument pas. Et chez les filles, donc, elles sont restées avec des cours et tout un aménagement pour finir leur brevet supérieur et finir en même temps l'éducation pédagogique. Mais la même chose chez les garçons, bien sûr. Je ne sais pas dans quelles conditions. Mais au bout de 2 ans, elles sont parties. Mais au bout de 2 ans, les normaliens, ceux qui étaient normaliens, donc au lycée, n'avaient pas encore le bac. Ils étaient rentrés en seconde, ensuite première, et puis terminale, il y avait 2. Donc il y avait une année, il y a eu une année de formation pédagogique, réservée à la formation pédagogique, qui était creuse. Et on a mis à ce moment-là, on a recruté ceux qui étaient rentrés comme suppléants, qui n'avaient donc aucune formation et qui ont bien voulu aller faire cette formation-là. Ça a été le cas de mon mari. Mon mari a fait cette formation-là. Alors, en sortant de là, il y a eu un poste de suppléance à Réaumont. Donc, il était instituteur à Réaumont.
Et là, on est en quelle année? En
42. En 42. 42-43. Mmh. Il a fait sa formation pédagogique 42-43. À ce moment-là, d'ailleurs, on recrutait dur et fort pour le STO. Donc, il ne se promenait pas en ville, il ne venait pas en ville. Et à Saint-Georges, justement, Saint-Georges d'Espérance, il avait connu le père d'un élève qui était boucher, qui avait tout de suite compris de quel côté il était, et qui avait chez lui un de ses cousins, un cousin germain de sa mère, qui s'était échappé, qui était prisonnier et qui s'était échappé, mais n'avait pas pu rester à Lyon. Donc, pendant les vacances, mon mari, c'est-à-dire qui n'était pas mon mari à ce moment-là, André, venait passer ses vacances chez ce boucher. Avec son compagne, avec avec son ami, et il passait ses vacances là. Et c'est comme ça qu'on se revoyait aux vacances.
Et vous vous mariez en 45, après la guerre?
Oui, alors on a attendu évidemment 44. Je n'ai connu mes beaux-parents, et je n'ai su réellement qui étaient mes beaux-parents, qu'à la Libération. J'ai connu mes beaux-parents à ce moment-là, à l'automne 44. Et on décide, évidemment, de décider de se marier, on attendait que ça.
Et à ce moment-là, il en parle, votre beau-père, de ce qu'il a fait pendant toutes ces années?
Non, à ce moment-là, je l'ai peu vu, parce que moi j'étais à Saint-Laurent-de-Mur, j'enseignais à Saint-Laurent-de-Mur, mon mari enseignait encore à Réaumont, donc on se voyait un peu, je suis allée une fois. Je suis allée une fois seule avec chez mes beaux-parents. Ils ont reçu mes parents une fois. Ils sont venus chez mes parents une fois aussi. Enfin, des liens. Bon, on ne parlait pas de ça d'ailleurs. Voilà. Et mon mari, à ce moment-là, a su, ce n'est qu'à la Libération, qu'il a su qu'était le rôle, et sa mère la même chose, quel était le rôle exact de M. Chavant, j'aide.
Et sinon, après, lui, il en a parlé? Il en parlait en famille?
Après, il en parlait, oui, il en parlait. Mais il parlait surtout de ceux qu'il avait rencontrés. Il ne parlait pas de ce qu'il avait fait. Il ne racontait pas ça. D'ailleurs, c'était un peu difficile parce qu'il n'avait, au Vercors, il n'avait pas de domicile. Il errait. Mais il est resté toujours très discret. Je sais qu'après, on m'a demandé si on avait des photos de M. Chavant au Vercors. Je dis, mon Dieu, non, M. Chavant ne se montrait pas. D'abord, à ce moment-là, on ne faisait pas des photos comme on en fait maintenant, bien sûr. Mais même, vous savez peut-être ça, qu'on a retrouvé des photos prises par des communistes, c'était des communistes qui étaient allés dans le Vercors et qui avaient dû cacher ces photos. On les a retrouvées d'ailleurs après la mort de mon mari. Et on les a présentées, moi j'ai juste allé même. Et disant, mais c'est même Dany me disait, mais il n'y a point de photos de M. Chavant, et il y a les photos. Mais je dis, Dany, M. Chavant ne se montrait pas, lui. Mm-hmm. Il y avait les photos de Geyer, parce que Geyer, s'il volait, vous connaissez, se montrait lui partout, et se promenait avec son drapeau à fleur de lys, ce que ne supportait pas mon beau-père. Bref, bon, il n'y avait pas de photos de lui. Si bien que, pendant longtemps, je ne sais pas après s'ils l'ont su, les Allemands recherchaient M. Chavant, ancien maire de Saint-Martin-d'Hères. Ils savaient, bon, quelles étaient ses opinions, il avait été vidé d'ailleurs, ils cherchaient Chavant. Ils savaient qu'il y avait un certain Clément au Vercors, ils cherchaient un certain Clément. Mais, pendant très longtemps, puis je crois qu'il y en a même qui n'ont jamais su que c'était le même homme.
Ils n'ont pas fait le lien entre les deux.
Et il était discret, très discret. Il ne racontait rien à personne. Ma belle-mère savait qu'il était au Vercors. Bon, elle est allée le voir plusieurs fois. Elle s'est fait l'idée, c'est le cas de le dire. Mon beau-père était un peu misogyne. Bon. Il n'avait pas besoin de femme, et en particulier quand on a bouclé le Vercors, il y est allé avec la femme de Mimi Blas. Je sais beaucoup de choses par ma belle-mère qui me les a racontées après.
Donc quand ils ont bouclé après le débarquement, elle a essayé d'aller le voir et il n'a pas voulu qu'elle reste.
Oui. Il est revenu. Puisque mon mari a accompagné une fois Bob à Herbay, et son père qui l'a demandé par l'intermédiaire de je ne sais qui, mais c'est tout. Et ils se sont rendus compte de ce qu'il était, le patron, qu'à la Libération.
Et après, il n'en parlait pas beaucoup non plus, il parlait des gens qu'il avait rencontrés. Et vous, en famille, vous ne posiez pas de questions, c'était pas un...
Moi aussi, mais enfin, pas particulièrement.
Parce que finalement, il a dit peu de choses après. Il y a une conférence tout de suite après la guerre, mais il n'a jamais écrit, il n'a jamais rien voulu écrire.
Il n'a pas voulu écrire, il n'a recommencé à écrire ses cahiers, quand je ne me rappelle plus quelle année, les derniers cahiers.
Oui, qui sont du reste. Je ne sais pas si on peut les voir.
Vous pouvez les voir, les derniers cahiers, mais ils ont été.
Ils ne sont pas achevés du reste.
Ils ne sont pas achevés.
Il a quand même essayé d'écrire ses souvenirs.
Ah oui, il a écrit une partie de ses souvenirs. Oui. Et qui sont, on les a donnés à la résistance, au musée de la résistance. Qui peut les montrer à des historiens comme vous, à des gens comme vous, mais ne pas les divulguer.
D'accord, pas public.
Tant que il y en avait qui les connaissaient. Dreyfus, par exemple, mon beau-père a beaucoup parlé avec Paul Dreyfus.
Le journaliste
Paul Dreyfus. Il n'a pas pu voir son livre, il a vu que le manuscrit. D'accord. Mais il nous a toujours dit que de tous les livres qui à ce moment-là ont été distribués et parlaient du Vercors, c'était celui de Dreyfus qui était le plus, qui était le mieux, qui était le plus réel. Voilà.
Et il lisait, enfin tout ce qui s'est publié, enfin il ne s'est pas publié grand chose jusqu'à là, mais il lisait, il se tenait au courant de tout ce qui se faisait.
Il est resté dans le mouvement, dans le mouvement résistant. Il est resté avec ses camarades. Bref, il a d'abord, parce qu'il n'a pas été au maquis tout de suite. Le maquis du Vercors, les premiers qui en ont fait partie, les fameux le Pupin, etc., ça n'était pas pour faire un maquis, c'était pour reconstituer le Parti Socialiste. Mon père était socialiste. Et c'est pour reconstituer le Parti Socialiste. Et puis, bon, il a parlé de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'on pouvait faire, etc. Et quand on a fait vraiment former un maquis, quelque chose qui pouvait ressembler avec un maquis, les gens de Villars, Villiers, Glaudas, le percepteur, je ne sais plus leur nom maintenant, le banquier, les huiliers, naturellement, et en particulier Jacques Samuel, Jacques, qui était, mais ça vous connaissez l'histoire de Jacques, oui, se sont réunis un lundi de Pâques, 42, je crois que c'est 42. Enfin, je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire, c'est pas exactement. Mm-hmm. Mais ça, ils sont dans les livres. Avec Léon Martin, le maire de Grenoble, l'ex-maire de Grenoble, qui n'était plus à Grenoble, c'est à ce moment-là qu'ils ont dit qu'il fallait former quelque chose, qu'il fallait essayer de se réunir, etc. Qu'ils ont cherché des militaires, c'est à ce moment-là qu'ils ont formé vraiment que le maquis a commencé à se constituer avec Leray et mon beau-père. Et Leray et mon beau-père sont toujours restés très soudés l'un et l'autre.
Ils se revoyaient régulièrement.
Ils se revoyaient, eux, régulièrement.
C'est le militaire dont il était le plus proche.
Oui, oui. Et à la suite, c'est à la suite, ça vous le connaissez.
Et quand vous dites qu'ils se revoyaient régulièrement, ils se revoyaient régulièrement à l'occasion de...
À l'occasion, oui, des rencontres.
Mais ils ne s'invitaient pas les gens.
Ah non, ils ne s'invitaient pas des gens, non, à l'occasion des rencontres de...
Les commémorations.
Les commémorations, des réunions de... Mon beau-père fondait l'amicale des pionniers du Vercors, bon, cette occasion-là. Mmh. Voilà, non, avec les militaires, il est resté en très bon terme, mais en particulier avec le Ray, parce qu'ils ont formé ensemble, vraiment, c'est eux qui ont commencé le maquis, en somme. Et le Ray, à la suite d'un parachutage, bon, ça vous connaissez l'histoire, le Ray a dû partir.
Écarté,
et à ce moment-là, mon beau-père a dit, je pars. On a fait du travail ensemble, ils étaient très bien entendus, et c'est eux qui avaient décidé un gouvernement, si on peut dire, enfin un chef militaire et un chef civil. Et mon beau-père laissait tout abandonner tout. Et c'est sur l'insistance de le Ray qu'il est resté. Il a dit, moi je pars, je ne peux pas faire autrement, je pars. Mais toi tu restes. Et là il était en très bon terme avec Hervieux Huette, avec Costa de Beauregard et avec Lescours. Alors là où il était avec, en moins bonne forme, c'est avec Thibollet. Thibollet n'admettait pas qu'il y ait d'autres gens à la tête que des militaires. Et que un chef civil, ça voulait rien dire, et il n'en voulait pas.
Et il en parlait de cette rivalité avec Thibollet, parce qu'il a été, à un moment, il a été arrêté.
Oh, il a été arrêté, oui, on en a parlé, il en a même encore parlé dans ses mémoires, dans ce qu'il a écrit, dans ses cahiers. Si, Thibollet, si. Oui.
Et c'était vraiment la rivalité, enfin Thibollet ne supportait pas qu'il y ait un autre chef qui soit pas militaire.
Voilà, qu'il ne soit pas militaire. Et qu'on n'avait pas besoin de chef civil. Bon, or, le chef civil, c'est tout de même lui qui a organisé tout cela.
Et justement, quand ils font de l'amicale, il va y consacrer beaucoup de temps à l'amicale.
Ah oui. C'est après la guerre. Bon, après la guerre, il en est sorti ruiné. Ça, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il a cherché à travailler, mais il a cherché d'abord à s'occuper du Vercors. Alors, il s'est occupé de la reconstruction du Vercors. Il est allé en Suisse plusieurs fois, c'est lui qui a récupéré, si on peut dire, le don suisse, et les Suisses ont beaucoup aidé. En particulier, ils ont fourni du matériel sur la Drôme. On a retrouvé des papiers où les gens se plaignaient que le voisin avait eu une moto faucheuse et lui pas, etc. Des petites choses comme ça. Il s'est occupé de ça. Il s'est occupé tout de suite des villages d'enfants. Parce que tout de suite, à la Libération, ils ont réquisitionné les hôtels qui avait participé, qui avait accueilli les Allemands, qui avait participé, qui avait collaboré, mm-hmm. ils les ont réquisitionnés pour y mettre les enfants de fusillés, de, ou les orphelins, etc. Ils ont créé avec Yves Farge et Longjarret, qui était le, l'inspecteur d'académie du Rhône. C'est eux trois qui ont créé l'œuvre des villages d'enfants. Œuvre qui existe toujours. Il y a encore un local à Autran qui s'appelle local Eugène Chavant, d'ailleurs.
Et après, il y a les colonies de vacances.
La Clémentine.
La Clémentine à Saint-Julien-en-Vercors.
Oui. Enfin, là, les villages d'enfants, ça a été une organisation vraiment très bien faite. Avec des hôtels, il y en avait en Savoie, il y en avait à Megève. Je me rappelle en 1945, il a traversé une Megève. Et mon beau-père était alors directeur de ces villages d'enfants. Mais quand tout a été bien organisé, il a dit, ça n'est pas à moi à rester. C'est l'enseignement, c'est l'éducation nationale qui va les prendre en charge. Donc c'est un instituteur qui doit être directeur. Et il a abandonné la direction des villages d'enfants pour la laisser à M. Boulogne, qui était un instituteur et qui l'a gardé assez longtemps. Si bien qu'à la rentrée 45, les villages d'enfants faisaient partie de l'éducation nationale avec des instituteurs nommés par, en 1945 cette fois, nommés par le recteur, ça n'était plus le préfet, parce que vous savez, entre 40 et 45, on était nommés par le préfet. Hein. Bon, donc c'est à ce moment-là qu'il a laissé à l'éducation nationale. Bon. Il y a quelqu'un qui a fait une étude sur les villages du Rhône enfant qui était venu nous trouver à ce moment-là.
D'accord,
je
regarde.
Je ne sais plus comment il s'appelait.
Il y a longtemps
Oh oui, il y a déjà quelques temps. Oui, bien sûr, mon mari était là tout longtemps. Et nous, on a pu lui dire que ce que je vous dis maintenant est que ces villages d'enfants, je connaissais des instituteurs qui étaient dans ces villages d'enfants. Chez Madame Belon en particulier.
Ça marchait que l'été?
Hein?
Ça marchait que l'été?
Non, ça marchait toute l'année. C'était à l'éducation nationale.
Donc c'était des écoles en fait.
Ça a été à la libération. Oui, ça a été à la libération des colonies de colonies de vacances.
Mais c'était des pensionnats alors après?
Mais après c'était des pensionnats.
D'accord.
Et ça reste en pensionnat à Villard de à Autran. Des pensionnats d'ailleurs qui sont que pour la pension intérieure, si vous voulez, que l'internat, les élèves de la maison d'Autran allaient à l'école primaire à Autran, à les écoles d'Autran et au collège à Villarban.
Et l'amicale, il va y consacrer beaucoup de temps.
Et alors l'amicale, il y a consacré beaucoup de temps. Il a vu donc à la reconstruction du Vercors, mais enfin tant qu'il a vu qu'il y avait les dons qu'il y avait à ministre de la reconstruction, il a laissé ça aussi à d'autres. Il a abandonné ça, mais l'association, il y a passé beaucoup de temps parce qu'il a retrouvé des jeunes, parce que bon, disons les choses honnêtement aussi, les jeunes qui étaient au maquis, il y en avait, c'était par idéologie, il y en avait par conviction, et puis il y en a beaucoup, c'était des jeunes qui ne voulaient pas aller en Allemagne. Or, ces jeunes-là, il y en avait de tous les milieux, il y en avait, bon, et ils étaient un peu livrés à eux-mêmes aussi, ils étaient dans la nature. Bon, mon beau-père leur a dit, on les a pas encadrés pour une vie en société, et livrés à eux-mêmes, ça a été quelquefois de mauvais penchants qui se sont révélés, des penchants d'ailleurs, ben, je t'ai fait lire une lettre qui a fait de la prison et qui avait été gourmandé, qui avait été un peu remis sur le droit chemin en ce moment, encore au moment du maquis, et mon beau-père l'avait sauvé. Et de nouveau, il avait rechuté, il jouait. Il avait rechuté, Il était de nouveau en prison et il appelait mon beau-père au secours pour que, voilà, pour que mon père, beau-père l'aide. Mmh. Une lettre d'ailleurs qui était très émouvante.
Mmh.
Il dit en disant qu'il était repentant et qu'il lui jurait qu'il ne recommencerait pas, mmh. etc. Sauvez, sauvez-moi, vous m'avez sauvé déjà, je vous donne ma vie. Enfin, c'était un peu grandiloquent en disant, mais enfin bon. Oui, et il y avait d'autres dans ce cas. Il y en avait d'autres qui ne retrouvaient pas du travail, qui ne retrouvaient pas. Mmh. Et il a dit, il nous l'a dit quand il faisait ça, moi j'ai entendu dire, on leur a appris à tuer. Mmh. Il faut leur apprendre maintenant à vivre et à respecter la vie. Mmh. Voilà exactement ce qu'il disait.
Il s'est surtout investi d'une mission vis-à-vis de ces jeunes générations.
Voilà, mmh. oui. Et c'est surtout, à l'origine c'était ça, pour sauver les jeunes. Mmh. Et puis pour retrouver ce lien d'amitié. Et pour retrouver aussi ce lien avec tous, quelle que soit la politique, quelle que soit la nationalité et quelle que soit la religion. Mmh. Et quand il a créé cette association, il l'a bien créée, il a bien précisé que c'était apolitique, religieux.
Mmh. C'était vraiment...
Et avec lui, c'est resté comme ça. Par exemple, quand il y avait des cérémonies de Vassieux, bon, il y avait une messe à Vassieux, les gens allaient à la messe, mais la messe n'a jamais été dans le programme des cérémonies de Vassieux.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est pour ça que je vous le dis.
Lui, il n'y assistait pas à la messe?
Non, il
était agnostique. Pour dire que, d'ailleurs, vous avez peut-être vu...
Après, c'était l'époque aussi qui était comme ça.
C'était l'époque aussi qui était comme ça.
Il était issu d'une époque, il avait connu quand même les affrontements.
Ah oui.
Donc lui, il était d'une époque où les socialistes étaient anticléricaux.
Il était anticlérical. Oui. D'ailleurs, la première rencontre avec lui, ça a été ça. Je suis socialiste, je suis antimilitariste, parce qu'il avait fait la guerre de 14 et il avait dit plus jamais ça. Mmh. Bon. Antimilitariste et anticlérical.
Tout l'opposé de...
Alors, à quoi d'ailleurs Hervieux, c'était Huet, lui a répondu, je vois que vous avez du caractère, nous allons nous entendre. Et c'est exact. Mmh. Ils se sont toujours entendus, il a respecté les choix d'Huet, comme Huet a respecté ses choix.
Donc, ensuite, les gens qui fréquentent, ça peut être les civils de l'amicale et les civils, ceux qui étaient les civils du Vercors, qui étaient plutôt autour de lui.
C'est les
gens qu'il va continuer à fréquenter après-guerre.
Il a fréquenté la famille Mulier, bien entendu. Il a fréquenté.
Oui, alors les Mulier, c'était des amis, enfin on en avait déjà parlé, mais là par contre, c'était des amis au sens. Ils mangeaient ensemble, ils connaissaient leur famille. Enfin,
ça c'était des amis de terrain, quoi. Mmh. C'était Victor Hulier était au Parti Socialiste.
Ils se connaissaient beaucoup, ils buvaient des coups.
Alors, là, avec ceux-là, il les voyait beaucoup, ceux qu'il avait connus au départ. Mais les généraux, par exemple, Huet, il l'a connu.
Déjà, il n'était pas à Grenoble,
Huet. Grenoble n'était pas à Huet. Alors, il se voyait quand même, il se voyait de temps en temps à Paris, il se voyait, mais dans le cadre des commémorations. J'ai vu Huet une fois manger à la Croix-Rouge en 1945.
Oui, tu vois, c'est arrivé une fois ou deux. Quoi.
Une fois. Et après, avec Madame Huet, la seconde Madame Huet, elle était beaucoup plus large d'esprit peut-être. Enfin, ben non, elle est venue plus souvent. D'accord. Mais autrement, dans la famille, non. Mmh. Descours. Il était très bien avec Descours aussi. Descours a perdu un fils. Mmh. Bon, je sais que j'ai retrouvé le faire-part de Descours en voyant. Mais c'est tout, quoi. Ils se voyaient, ils se sont toujours vus. Mmh. Constant de Beauregard, la même chose. Mmh. Et Le Ray, la même chose. Il voyait Le Ray à Paris. Il a, par obligation après, soit pour la reconstruction, soit pour du Vercors. Soit aussi pour l'association, il était resté en très bon terme avec Ullmann. Mmh. mm-hmm. oui, qui était Ullmann, mm-hmm. et Ullmann l'avait amené un jour à l'Élysée. Mais enfin, c'était des visites protocolaires, si mm-hmm. on peut dire. Et avec le reste, c'était la même chose. Mm-hmm. Il a rencontré Jean Mauriac, par exemple.
Le beau-père de...
Le beau-frère de... Mais autrement, il ne connaissait pas la famille Mauriac. Mm-hmm. Et pas la famille. Madame Leray, il ne l'a jamais connue.
D'accord.
Et par exemple, alors, je vous donne encore l'exemple. Quand à Grenoble... au quartier Hoche, dans le quartier Baudebaule, on a fait une allée générale de Ray.
Mm-hmm.
Alors, quand on a inauguré l'allée générale de Ray, mon beau-père était mort, bien sûr, mon fils était parti des enfants de pionniers, c'était mm-hmm. plus des pionniers, mais c'était des enfants de pionniers, on est allé assister à la cérémonie avec des résistants, avec des pionniers, etc. Et après les discours d'usage, l'inauguration, etc., mon mari est allé voir Madame Leray, la générale Leray. Et il s'est présenté, il a dit, voilà, je me suis fier de vous voir, je suis André Chavan, le fils de ce saint-saint. Oh, monsieur Chavan, j'en ai tellement, tellement entendu parler. Ça me fait plaisir de vous voir. Elle a entendu parler de mon mari, oui, obligatoirement, parce qu'il y avait déjà longtemps que mon beau-père était mort, de mon beau-père, de mon mari, il savait que le colonel était attaché, le colonel, le général à ce moment-là, était attaché à notre famille et à nous. Enfin,
ceci dit, elle n'avait jamais vu papa quand même.
Comment ?
Ceci dit, elle n'avait quand même jamais vu papa.
Mais elle n'a jamais vu papa, ni même probablement même pas mémé.
Mmh.
Voilà.
Et vous dites que les souvenirs aussi, c'est à travers votre belle-mère. Elle jouait un rôle, elle était sur les mêmes convictions politiques que lui,
ah oui,
que j'aime.
Ah oui, absolument.
Mm-hmm.
Alors elle a d'abord accepté la vente du café, parce que mm-hmm. C'est un café qui marchait bien.
Mm-hmm.
Je ne sais pas, vous connaissez l'histoire, mon beau-père a été vidé.
De son entreprise
De son entreprise, purement et simplement. À partir de ce jour, M. Chavan, vous n'êtes plus parti de votre poste personnel.
Parce qu'il avait été élu.
Alors, ça, c'est ma grand-mère, c'est ma belle-mère qui me l'a raconté.
Mm-hmm.
Lui, il ne racontait jamais ça. Mais ma belle-mère m'a raconté comment, le lendemain des élections, où la liste sur laquelle était mon beau-père, mais il n'était pas tête de liste.
Mm-hmm.
Étaient toutes passées devant la liste présentée par Bonjean, qui était directeur de l'usine des rébellés. Il le fait appeler le lundi au bureau en lui disant, Monsieur Chavan, vous êtes le grand triomphateur de la journée d'hier. À quoi mon beau-père a répondu, non, ce n'est pas moi qui ai triomphé, c'est la liste entière, je ne suis même pas tête de liste, c'est la liste entière, mais ce n'est pas moi. Terminé. Mais 8 jours après, c'était jour de paye, il est convoqué au bureau, Bonjean lui donne sa paye, en lui disant, à partir de ce moment-là, Monsieur Chavan, vous ne faites pas partie de notre personnel.
Donc c'est en 1924, ça ? C'est 34.
Et il était tellement stupéfait que il est arrivé, alors ça c'est mon mari qui me l'a raconté. Parce que j'étais en famille à ce moment-là, et il est rentré manger, il avait rapporté sa tenue de qu'il avait sa le pète, enfin, etc., cette affaire, mm-hmm. il les avait rapportées, mais il les avait mis à l'entrée du portail de la villa sans les rentrer à la maison.
Mm-hmm.
Et il est rentré à la maison sans rien dire.
Mm-hmm.
Bon, le repas s'est passé, et puis il travaillait encore samedi après-midi. Mais enfin, à partir de ce moment, vous ne venez plus, il est plus venu, bien sûr. Et ma belle-mère dit, mais... Ma belle-mère dit, mais tu pars pas? Alors elle dit, non, je pars pas, je pars plus. Je suis viré.
Et le café, comment il réussit à l'acheter?
Alors, il a cherché d'abord du travail. Mmh. Et puis partout, ben, on le refusait. Il avait été liquidé d'un côté, bon, personne. Mmh. Alors, on lui a dit, il faut acheter quelque chose, il faut faire quelque chose. Mais il n'avait pas d'argent pour acheter un café. Mmh. Alors, c'est Léon Martin qui lui a prêté de l'argent, encore qui était maire de Grenoble à ce moment-là, qui était socialiste, et qui lui a prêté de l'argent sans intérêt.
Qui ça, tu dis, maman?
Le Camparin.
Oui, mais qui, j'ai pas entendu.
Léon Martin.
Ah oui, Léon Martin, d'accord.
Léon Martin.
Ah, je savais pas ça.
Voilà, si tu peux acheter ce café, si ça te plaît, tu peux y aller, je te prête l'argent, et tu me le rendras quand tu pourras. Alors, ça a marché. Il y a amené son frère, qui était tout simplement cordonnier à Colombes, qui vivotait, qui était célibataire, avec son père. Il avait encore son père, qui aidait son fils comme cordonnier, son père était cordonnier. Ils sont venus, le frère, c'est, le café c'était Chavant frère. Mm-hmm. Le frère avait une part dans le café. Mais c'est Léon Martin qui leur a dit, je prête l'argent, Léon Martin s'était intéressé, avait vu ce que c'était une bonne situation, que ça allait bien. Il lui a dit, je te prête l'argent et tu me le rendras quand tu pourras.
Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Léon Martin?
Il était maire de Grenoble.
Oui, mais...
Un pharmacien.
Ah oui, c'est le pharmacien.
Oui, parce que maire de Grenoble, oui, à ce moment-là,
Votre belle-mère a aussi travaillé au café. Ils travaillaient tous au café.
Ils ont pris ce café à l'île verte, qui était le dernier café avant le pont des hôpitaux, et qui a marché très bien tout de suite. Il a marché bien, c'était bureau de tabac, journaux, et juste avant les hôpitaux, si bien que tous les hôpitaux, l'hôpital, c'était l'hôpital de Grenoble à ce moment-là, bien sûr, et les élèves, les internes, les externes, les médecins, c'était le premier café qui sortait de l'hôpital, s'arrêtait. Les gens qui allaient à l'hôpital faire des visites s'arrêtaient pour prendre un journal, il y avait un jeu de boules. Mm-hmm. À l'époque, les jeux de boules, ça marchait bien, si bien qu'ils ont fait un très très bon, ça a été très bien, et ils ont très vite remboursé Léon Martin. Et ma belle-mère a toujours regretté ce café.
Ah, je l'ai entendu dire. Alors, oui, absolument.
Et du coup, après, elle a pu travailler, une fois que le café a été vendu?
Alors, quand le café a été vendu, il a été, bon, il avait démissionné il n'a pas été maire tout de suite. Oui. C'était Jourdan qui était maire, et puis Jourdan a eu des raisons de santé, bref, il a été maire assez vite. Mais enfin, ça n'avait été pas prévu. Bon. Et il n'avait rien. Et puis, il savait qu'il était surveillé par la missile, par la milice. Il est parti tout de suite. Ma belle-mère a rejoint Saint-Martin-d'Air. Et il n'y avait rien à vivre, rien. Et mon beau-père a toujours dit, on a bazardé le café. On a bazardé le café. Bon, son frère n'a peut-être pas les mêmes idées. Enfin, son frère avait épousé à ce moment-là, il était célibataire. Il avait épousé une servante du café, qui était d'ailleurs une personne qui était bien. Mais elle avait une fille. Le frère a repris un atelier de
cordonnier,
rue Gabriel Péry. C'était pas la rue Gabriel Péry, c'est la rue de la Fédération. Mais bon, il y a eu un différent entre deux.
Mmh. Fait de la vente
là, je n'ai jamais su. Mmh. Je n'ai jamais connu ce frère. Mmh. Mon mari avait essayé d'aller le voir un jour, pour le voir. C'était un différent, mais enfin pour le voir. Il s'est fait mettre dehors par sa femme. Il n'a pas pu voir son oncle. Après, il l'a regretté, papa m'a regretté souvent, il a dit j'aurais dû quand même, on aurait dû y aller tous les deux, lui présenter ma femme, bon, ça s'est pas fait, ouais. Mais bon, il fallait vivre. Pour revenir à ma belle-mère. Il fallait vivre. Et ma belle-mère est restée dans la maison de Saint-Martin-d'Hères. Puis quand ils ont donc, je vous ai dit, que quand ils ont eu des difficultés, quand ils ont été perquisitionnés, elle a demandé le divorce. Bon.
Et du coup, la procédure n'est pas allée jusqu'au bout.
Ah non, la procédure, elle est restée en état. Elle était chez Maître Prince, peut vous le dire, qui, connaissant la situation, avait bien compris quelle était la situation, il l'a laissée. Ce que ma belle-mère n'a pas compris après,
c'est qu'il a fait payer.
Voilà. Elle l'a eu sur le cœur. En 44, la libération, quand les choses ont été réglées, ben, il a présenté sa note. Alors, bon, ben, ça, c'est une autre histoire.
Vous avez parlé de l'importance des réseaux socialistes qui ont été à l'origine. Dans les livres d'histoire, on parle aussi des réseaux francs-maçons. Je ne sais plus si on en avait parlé.
Oui, mais je vous avais dit que j'en savais rien.
Oui, alors mon beau-père n'a jamais été franc-maçon.
D'accord, mais il les a fréquentés.
Il les a fréquentés, et il a fréquenté en particulier Charles Pion, qui était lui franc-maçon.
Oui, mais il l'a fréquenté à la Libération.
Ah, oh, mais il l'avait fréquenté déjà avant.
Parce que sa connaissance de Pion, elle remonte de quand, elle me permet de...
Pion était socialiste.
Ah oui.
Était au Parti Socialiste. Alors, la connaissance de Pio, c'est au Parti Socialiste. Mais Pio n'a jamais pu l'entraîner, il voulait être. Oui, il n'a jamais été franc-maçon. Il était anticlérical, il n'aimait pas les pompes de l'Église et tout ça, c'était pas pour faire d'autres pompes ailleurs. voilà ça. Quand il en parlait, c'était son raisonnement.
Parce qu'il y en a qui ont essayé de l'attirer, enfin qui ont essayé
oui,
de...
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Mais il n'a jamais...
Et il n'a jamais accepté. Tout comme il n'a jamais... Il n'y avait pas de syndicat à l'époque. Mais enfin, il y avait quand même eu des grèves. Il n'a jamais été gréviste. Il fallait respecter le travail. Et par exemple, avec son ami Fontaine à côté. Fontaine avait fait grève, qui travaillait tous les deux chez les Rébelliers.
Ah, mais ça, je ne savais pas. Oui, je m'excuse. Fontaine, parce que c'était un voisin qui était, en fait, qui tenait un atelier.
Mais
il avait été chez Néret aussi.
Oui.
D'accord.
Il avait été chez Néret. Il avait été formé chez Néret avant de former, lui,
sa propre.
Voilà. Et Fontaine, justement, une fois, avait des problèmes aussi, bien sûr, comme partout. Il avait fait grève, et mon beau-père n'avait pas fait grève. Il l'avait traité de jaune. Voilà.
Et justement, sur sa trajectoire, parce qu'il a une origine modeste, fils de cordonnier, il commence comme ouvrier, et puis la politique fait que voilà, il connaît d'autres destins. Comment il le vit? Parce qu'il est toujours décrit comme un homme modeste. Vous l'écrivez comme discret pendant la guerre.
Non.
Comment il... Parce qu'au fond, il a accédé à d'autres...
Parce que... Parce qu'il avait un peu d'ambition, parce qu'il voyait, il était un très bon ouvrier. Alors il avait, ça s'appelait pas le CRP à l'époque, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais enfin, il travaillait à Charavine. Et il aurait voulu, un petit peu aussi pour faire de la politique, venir à Grenoble. Et à Grenoble, quand il s'est présenté à Grenoble, dans les usines, on lui disait, oui, mais il faudrait que vous soyez libéré de vos obligations militaires. Alors, on a dit parfois, il y en a qui ont dit qu'il s'était engagé dans l'armée par conviction. Non. Bon, ça, lui, je l'ai entendu dire, je me suis engagé pour me débarrasser, voilà, c'était son terme, du service militaire et pouvoir atteindre un atelier comme Ernest Rébellier, par exemple. Et c'est pour ça qu'il s'est engagé. Il s'est engagé, et puis il est resté, puisque la guerre est arrivée, il était engagé, il a fait 7 ans.
Mais du fait, il va fréquenter, en tant qu'élu, ensuite après en tant que responsable du maquis, bah, il va fréquenter les autorités politiques, administratives, etc.
Oui, oui.
Et votre belle-mère aussi. Et quelle vision il en a?
Ma belle-mère, pas du tout, elle ne fréquentait pas, elle. Et la première chose, je te l'ai dit, ça. La première chose que ma belle-mère m'a dite, Si un jour André, c'est mon mari, donc, peut faire de la politique, vous le quittez tout de suite. Voilà.
Elle, ça lui plaisait pas vraiment.
Pas du tout, non, parce qu'il n'était jamais là.
Oui, puis elle n'avait pas de respect particulier pour les autorités, justement. Pour elle, ça voulait quand même pas dire grand-chose. Elle parlait assez crûment à tout le monde. Pas crûment, non, poliment, mais
Elle
disait ce qu'elle pensait, quand même.
Oui, exactement. Elle avait son franc-parler, d'ailleurs. Oui. Et puis, c'est vrai qu'il a été souvent absent. Et parce qu'à ce moment-là, la politique, il l'a reprise après la guerre.
Oui, non, mais la question de monsieur, c'est de savoir s'il respectait les autorités, par exemple, quelle relation il pouvait avoir avec les préfets, des gens comme ça. Est-ce qu'il avait du respect pour eux?
Il respectait, il était républicain, il respectait l'ordre républicain. Mais il ne connaissait pas le préfet, il ne connaissait pas les préfets. Il les a connus après, mais il ne les a pas connus. Alors celui qui l'a mieux connu, évidemment, c'est Régnier, mais Régnier, c'était le préfet de la Libération, bon, c'était autre chose. Quand Régnier est mort, c'est mon beau-père qu'on est allé chercher tout de suite. Donc là, ça, c'est autre chose.
On lui avait proposé des postes à responsabilité ou quoi, qu'il aurait refusé. Il s'est toujours tenu à distance des postes de responsabilité.
Oui, mais il se tenait à distance. D'abord parce qu'il reconnaissait qu'il était d'une origine modeste et que ça n'était pas son rôle à lui. Tout comme je vous ai parlé des villages d'enfants, ça n'était pas son rôle à lui, ça devait être quelqu'un de l'enseignement. Un préfet, une préfecture, ça devait être à quelqu'un qui avait appris les règles, toutes les lois, etc. Il n'était pas fait pour être préfet.
Et justement, toujours sur la idée, il a encouragé votre mari aussi à faire des études. Parce que votre mari aussi, il a fait l'école normale.
Ah oui, oui, oui.
Ça c'était aussi important.
Ah ben, c'est aussi important. Oui, oui. Mmh. Oui, oui, ça, il a encouragé mon mari. Oui. Mmh. Mon mari voulait être boulanger, d'ailleurs. Parce qu'il y avait un excellent boulanger dans le coin de l'île verte. Bon. Et puis non, il l'a encouragé. Mon mari, ça lui plaisait aussi, finalement. Oui.
Et dans les archives de départementales de l'Isère, sur sa décoration de compagnon
de
la Libération, il y a des versions qui sont. Ils disent que De Gaulle n'était pas très favorable à cette décoration et qu'on lui a forcé la main.
Oui, c'est exact. C'est exact. Et celui qui a le plus forcé la main à De Gaulle, c'est Junot.
Vous avez dit un peu qui était Junot.
Tu te rappelles plus qui était Junot. Junot, c'était un officier. Et c'était un officier du maquis, quoi. Alors il est resté en bon terme avec Junot. Il était communiste, d'ailleurs.
C'est ça, c'est le seul qui était.
Voilà. Oui, mais finalement, De Gaulle, il a toujours dit, De Gaulle, il n'a jamais pris les résistants au sérieux, il les prenait pour des rigolos. Exactement. Voilà, c'était un pour des rigolos.
Il l'a fréquenté aussi dans les cérémonies protocolaires, il l'a dû voir.
Oui, alors dans les cérémonies protocolaires, il a toujours respecté De Gaulle. Bon, il l'a respecté en tant que président de la République, mais il n'a jamais fait partie, il n'a jamais fait partie de parti politique après la guerre. Bon, et ses copains, quoi, qui était l'UDF, les différences, je m'en rappelle quand même.
L'UNR,
etc. Voilà, qui le sont. Mais pourquoi tu viens pas avec nous? Mais pourquoi? Il a dit non. J'ai fait le serment. Il avait fait le serment avec Jacques. Et puis je me rappelle plus avec qui encore. Enfin, je sais qu'il y avait Jacques. Les partis communistes ont fait trop de mal. On ne refera jamais, on ne sera jamais.
Jamais.
On ne participera jamais à un parti comme un parti.
Et au Parti Socialiste, il a jamais
continué. Il a coupé, c'était fini, terminé, et il n'a jamais, après 45, 44-45, il n'a jamais fait partie d'aucun parti communiste. Ils se sont présentés aux élections législatives de 45, en tant que résistants, avec dans le département, comment il s'appelle? Je viens de vous aider son nom. Qui était commissaire de la République. Infarge.
Infarge.
Mmh. Il vécut Infarge, et puis un autre, Berthier, je crois, qui était aussi un résistant de Vienne, ou de la région de Vienne. Mmh. Ils ont été lamentablement lessivés. Mmh. Ils se présentaient uniquement sur le parti de la résistance et sur l'application du CNR. Mmh. Ils ont été lessivés, ça a été les partis politiques, le MRP, etc., mmh. etc. Et il n'a jamais remis les pieds dans un parti politique. Et au Parti Socialiste, je reviens au Parti Socialiste, il était conseiller d'arrondissement de Grenoble. Mmh.
Après-guerre.
Après la guerre de 14, oui.
Ah oui, après la guerre de 14.
Oui.
Ouais.
Au moment où il faisait de la politique et où ma belle-mère m'a dit si entre un jour faire de la politique, vous lui dites, vous le quittez tout de suite. Mmh.
Bon, ça c'était ses déclarations.
Oui, ça c'est des déclarations. Moi, ça des déclarations d'un mémé, c'est
oui, pas n'importe qui. Il parlait comme ça.
Et justement, il a respecté De Gaulle en tant que président. Quand il est revenu au pouvoir en 58, vous l'avez entendu faire des commentaires?
Non.
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 Il faisait plus de commentaires.
Il faisait plus de commentaires. Mmh. Non.
Ça l'intéressait plus.
Ça l'intéressait plus. Alors oui, on a même fait, bon, j'ai vu un article de journal où on le représentait lorsqu'il a été décoré de la Croix de la Libération, et on a dit qu'après, quand c'était quand même en froid, c'était pas très chaleureux, et que c'est pour ça qu'il avait refusé les préfectures pour ne pas entrer dans ce système. Mmh. Ben, c'est pas pour ça, non. Mmh. C'était pas pour ne pas entrer dans ce système, c'était comme il avait pensé que pour les villages d'enfants, c'est l'éducation nationale. Mmh. Pour la préfecture, c'était le corps de la préfecture. Et chacun son rôle. Alors on a essayé quand même, on voulait absolument qu'on le tire quand même pour qu'il soit préfet. Voilà. Bon. Et on lui a dit, mais c'est toi qui as organisé, c'est au fond parce que l'organisation, comment dirais-je, alimentaire, et même les compagnies, etc. C'est lui qui avait tout organisé ça. C'est toi qui as organisé, tu organisais parfaitement ça, par conséquent, tu peux organiser un département. On a dit non, je ne suis pas diplomate d'abord, je ne connais pas toutes les lois. Oh, mais tu te feras, il y a des gens qui te connaissent. Il a dit, ça n'est pas mon rôle. Mm-hmm. Et comme disait Dreyfus dans son dernier livre, c'est Citadelle de la Liberté, Chavannes est rentré dans son jardin, il est rentré chez lui, rentré dans son jardin.
Pourtant, il avait accepté d'être maire de Saint-Martin d'ailleurs. Enfin, ça, c'était. Il considérait que c'était. Mais pas au-delà de la mairie de Saint-Martin d'Air.
Pas au-delà de la mairie de Saint-Martin d'Air. Et qu'il a quitté d'ailleurs pour raison de santé, parce que finalement, les années de. Comment dirais-je, de vagabondage dans le maquis et ailleurs, avait épuisé sa santé.
Ah, mais il laissait des traces sur son physique.
Il a fait un infarctus sans qu'on le sache. Mmh. Enfin, sans qu'on le sache. Il y avait une réunion à Méaudre. Et puis il était malade, et il fallait, tu ne peux pas y aller. Alors Jacques dit, écoute, tu vas essayer d'y aller, Jacques était médecin. Mmh. Il dit, écoute, tu vas essayer d'y aller, on le tue dans une couverture, il est allé à cette réunion. Et puis, je sais pas, ils ont dû quand même lui soigner, lui donner quelque chose, je ne sais pas, bref. Il s'en est sorti. On a su que c'était un infarctus avec les électrocardiogrammes qu'on a fait 20 ans après.
On a vu,
vous avez eu un infarctus quand avez. Alors, en se rappelant, il a dit, ben oui, j'ai été malade, j'ai eu tel symptôme, ben vous avez fait un infarctus.
Et justement, sur son rapport au parti politique, en 1920, lors du congrès de Tours, il est déjà engagé en politique.
Oui, il était
déjà engagé. Il en parlait de la scission du congrès de Tours.
Oui, et il n'a pas voulu être communiste.
Ouais. Il en parlait de quelle manière à ce moment-là?
De quelle manière? Il ne voulait pas. Il trouvait que les communistes étaient trop inféodés à des nations étrangères, en particulier à la Russie. Et il ne voulait pas, c'est pour ça, c'est ça, alors ça il nous l'a dit, ça je l'ai entendu dire moi. Mmh. Il ne voulait pas être inféodé à une autre nation. Mmh. Et c'est pour ça qu'il avait refusé le Parti communiste. Et il a jamais adhéré à aucun parti. Enfin, il a adhéré au parti. À ce moment-là, il a choisi le Parti socialiste. Mmh. Et il est resté socialiste. Et il n'a jamais, il n'aimait pas beaucoup les communistes qui essayaient de toujours s'infiltrer. Voilà.
On peut dire qu'il était anticommuniste.
Il était anticommuniste, oui, il était anticommuniste, on peut le dire.
Il s'en cachait pas, du reste.
Et pour vous dire quand même que ma belle-mère, alors, ma belle-mère a vécu petitement, avec le peu d'argent qu'elle avait, et puis ils avaient l'argent de, du café, mais comme ils ne voulaient pas que cet argent du café puisse être récupéré, il a acheté un terrain avec, qu'il a acheté au nom de son fils. D'accord. Donc le terrain de la Croix du Pâtre, il a été acheté au nom de papa. Donc, lui, il n'avait rien. Mmh. Voilà. Alors, elle, elle a vécu sur ce champ. Elle a acheté deux chèvres. Mmh. Elle a vécu sur ce champ avec ses deux chèvres. Elle avait son lait, elle avait des poules, elle avait des lapins.
Et elle a passé la guerre...
Elle a passé la guerre comme ça. Et elle, bon, elle savait quand même un peu ce qui se passait. Elle savait qu'il ne venait pas, elle savait pourquoi, elle savait qu'il s'appelait Clément et que personne ne le savait. Personne dans le quartier de la Croix-Rouge ne le savait. Elle ne voyait personne.
Et finalement, elle a joué un rôle important, elle, dans la transmission, de peut-être plus que lui.
Mais enfin, oui, pour moi, du point de vue familial déjà. Du point de vue familial, c'est-à-dire qu'on a vu, bon, elle venait toutes les semaines chez nous. Elle venait toutes les semaines. Mon mari était à la retraite, mais faisait du bénévolat. Un jour, il était aux œuvres laïques, un autre jour, il était ailleurs. C'était moi qui passais la journée avec elle. Elle me racontait tout ça. Et alors, elle m'a raconté, justement, quand il est parti à Alger. Quand elle, la deuxième fois, il est parti à Alger. Ou la première, puisqu'il avait les papiers encore dans sa... Voilà. Première fois qu'elle est partie à Alger, il est allé la voir. Il est allé une nuit. Bon. Allé la voir. Il lui a expliqué qu'il allait voir ce qui se passait à Alger. Parce qu'ils ne comprenaient rien, on ne leur envoyait rien, on ne savait pas, en bref, il fallait qu'il y aille. Il avait réussi à trouver quelqu'un, c'était ça d'ailleurs, c'est, après il nous l'a raconté. C'est ce voyage à Alger, la première fois qu'il l'a raconté, ce n'est pas à nous qu'il l'a raconté. C'est à Daniel Huillier. À Daniel Huillier qui mangeait chez nous, parce qu'il était toujours resté ami avec les Huilliers, les Huilliers étaient chez nous, nous allions. Et un soir Noël, peut-être même, les enfants de M. Huillier, je crois que il me semble que Victor était déjà mort, il y avait Danny. Enfin, c'est Danny qui a turlupiné mon beau-père pour lui dire, mais racontez-nous ce voyage à Alger. Et la première fois que j'en ai entendu parler, que papa en a entendu parler de ce voyage à Alger, c'est quand il l'a raconté à Danny. Où donc, il voulait aller voir ce qui se passait de l'autre côté, puisqu'il ne connaît, personne ne venait les aider, bon. Et puis, il se trouve qu'il connaît, ou qu'il se met en communication avec un Américain qui s'appelle Colonel Azur, dont vous avez entendu parler vous aussi. Le Colonel Azur, qui avait été parachuté, et qui s'occupait des affaires de... du Vercors et des alliés. Et juste quand mon beau-père a trouvé, je ne sais qui, lui a dit, mais il faut me trouver un Américain, il faut me trouver un moyen d'aller à Alger. Alors, il y a le colonel Azur qui peut faire quelque chose, il cherche quelqu'un. Et le colonel, il va voir le colonel Azur, il dit, mais je cherche quelqu'un, moi, parce que j'ai des documents à faire passer aux alliés concernant un débarquement en Provence, il faut que je les fasse porter. Je cherche quelqu'un et je voulais justement être en communication avec vous pour que vous m'indiquiez quelqu'un qui puisse les porter. Alors il a dit, moi je vous les porte. Et il avait réussi, le colonel Azur avait réussi à avoir, ça beaucoup de gens ne le savent pas, toute la défense allemande de la côte méditerranéenne, depuis le Cap Cerbère jusqu'à Menton. Et à ce moment-là, au 15 août 44, bon, ça leur a servi. Et alors, il fallait porter ces papiers à Alger pour qu'ils puissent encore ensuite être transportés. C'était la seule façon que les Alliés en aient connaissance. Alors, donc, il est décidé de partir et il est venu voir ma belle-mère, bon, pour lui dire, pour lui expliquer cette fois, pour lui dire. Bon. Et ça, c'est encore ma belle-mère qui me l'a dit. Et au moment de partir, j'ai bien compris que c'était fini, que je ne reverrais plus. Mmh. Et au moment de partir, j'allais dire adieu. Vous savez comment on vous dit adieu comme ça. Mmh. Et j'ai dit, j'ai pas pu dire, je lui ai dit au revoir. Mmh. Et puis il est parti, puis il n'a plus rien su jusqu'à ce qu'il revienne, quoi. Mais enfin, parce que ça a été le départ manqué. Et il avait donc tous les défis. Ça, il le raconte dans ses cahiers, cahiers qui sont au musée de la Résistance. Il les avait cachés, tous ses papiers, il les avait cachés dans la doublure de sa veste. Et ils avaient, il devait avoir un contact au Cap Camara. Ils arrivent à Ramatuelle, je m'en rappelle plus, enfin. Le contact n'y était pas, trop personne. Il faut aller plus loin, bon plus loin. Et comment faire pour y aller? Ils font l'autostop. Premier camion qui rentre, quand ils ont été dedans, ils ont aperçu que c'est un camion allemand. Un camion allemand qui arrive à la caserne. Et, c'est ce que dit mon beau-père, par chance, il s'est arrêté, il n'est pas rentré directement. Il s'est arrêté pour donner un laissez-passer ou quelque chose comme ça. Et il est descendu à ce moment-là, il n'est pas rentré dans la caserne. Parce qu'il a dit, on serait rentré dans la caserne. Il était avec, je ne sais plus comment il s'appelait, un autre.
Avec qui il est parti finalement Vera, non?
Comment?
Jean Vera,
non, c'est Jean Vera, avec Jean Vera. Il était avec Jean Vera, oui, c'est ça. Ils ont pu s'échapper. Alors, mais il a eu très peur. Et toujours, il nous a toujours dit, le chauffeur du camion n'a pas été philosophe, n'a pas été psychologue, parce que à la façon dont je lui ai dit merci et dont j'ai serré la main, il aurait dû comprendre que c'était pour moi une délivrance. Enfin, et puis le contact n'est pas venu, il n'a pas pu le dire, bon, etc. Ils ne sont pas partis cette fois. Ils sont partis une deuxième fois. Mais la deuxième fois, il ne nous l'a pas raconté et ses cahiers s'arrêtent là.
D'accord.
Il avait rendez-vous pour le deuxième.
Il n'est pas allé plus loin.
Voilà. Alors, par contre, alors, le deuxième, on l'a vu à son retour. Et à son retour, il nous a dit tout de suite que à Alger, c'était un panier de crabes. Et je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de Pashdaoun, qui vient de mourir d'ailleurs. Bon, il est venu voir mon mari le 6 juin 2013. Mon mari est mort en décembre. Bon, il était déjà en bonne forme, mais enfin, il a vu... Il était avec Forman, qui était un plénipotentiaire qui a travaillé à Genève et qui parlait bien français, alors que Pashdaoun ne parlait pas très bien français. Et il ne savait pas ce que c'était quand mon mari leur a dit qu'à Alger, il avait dit que c'était un panier de crabe, il n'avait pas compris l'expression panier de crabe, c'est Forman qui lui a expliqué. Et cette expression, il l'a retenue. Parce que dans un livre, il y a un chapitre qui est intitulé « Le panier de crabe ». Parce que lorsqu'il a enfin pu arriver à Alger, il a parlé du plan montagnard. Personne ne connaissait ça à Alger. C'est tout juste si on connaissait ça, il en voulait un petit peu à... Comment ça s'appelle ?
Dalloz.
Il en voulait à Dalloz.
Oui. Enfin, beaucoup.
Même beaucoup.
Oui.
Et comment il s'appelle? Costa, pas Costa, Descours en voulait aussi.
Guadalos.
Descours a dit qu'il a échoué comme un rat. Enfin bref. Il est allé soi-disant à Londres pour défendre son plan, mais finalement, je ne sais pas comment il l'a défendu, personne ne le connaissait. Mmh. Bref. Et il a découvert que oui, c'était un panier de crabe. Mmh. Et on lui a pris pour cela, où on lui a proposé, il a demandé de l'aide, mais on lui en a proposé beaucoup plus qu'il n'en demandait, et c'est trop qui ne sont jamais arrivés. Mmh. Et il en voulait un peu à De Gaulle aussi, à ce moment-là. Il n'en disait rien, mais enfin, parce que De Gaulle, il n'a pas su d'ailleurs, lui, probablement, il n'a pas su. Alors que c'est finalement Pachdaron qui a su que De Gaulle ne voulait pas envoyer des troupes. Oui, De Gaulle n'était pas très bien avec certains maquis, et en particulier le Vercors, parce que ça a été à l'origine pour le Parti communiste.
Oui.
Voilà. Et pour De Gaulle, c'était des gens de gauche.
Mmh. Pas vraiment des communistes, mais des socialistes en tout cas.
Oui, c'était des socialistes. Oui. Mmh. Mais pour De Gaulle, c'était...
C'était pareil.
C'était pareil. Et il n'a jamais voulu, au lieu d'envoyer des troupes à... Oui, il a toujours pris les résistants pour des rigolos, c'est vrai. Mmh. Et puis, il a voulu, lui, partir de lui d'un maquis du Massif central. Mmh. Et il a fait... Pachdaron l'explique très bien dans ce livre. Où il a essayé de faire parachuter de gagner les alliés. Mmh. Pachdaron disait bien les alliés, mon pari parlait des Anglais, parce que nous, c'était des Anglais, les Anglais, les Américains. Mmh. Et Pachdaron, il était gallois. Enfin, il était né en Inde, son père était officier de l'armée de l'Inde, il était né en Inde, mais il était d'origine galloise. Alors chaque fois que mon pari parlait anglais, les Britanniques comprenaient.
Ah oui, on rectifiait.
Oui, oui. Enfin, c'est une petite histoire. Oui. Et... Finalement, il voulait partir, lui, De Gaulle, à la tête d'un contingent ou français ou parachuté, de britannique, si vous voulez, mais qu'il soit lui, général, enfin, pas général à l'époque, bref, mais à sa tête, il ne voulait pas que ce soit la résistance.
Même s'il y avait quand même des militaires à la tête du Vercors.
Hein. Voilà. Voilà. Malgré les papiers signés, il n'a jamais voulu. Alors finalement, ce maquis n'existait plus, ce qu'il voulait. Il y avait eu un maquis qui n'existait plus. Donc il n'y avait plus de fondement, si vous voulez, d'organisation. Il fallait l'organiser. D'autre part, les alliés n'ont pas voulu. Il y a eu un contre-temps, peut-être le temps, simplement la saison, c'était pas mauvais, ils ne pouvaient pas faire du parachutage, enfin finalement, les alliés ont abandonné et lui ont dit, ben on les parachutera sur le Vercors. Mais c'est arrivé, le Vercors c'était fini. Alors là, le fameux télégramme du Vercors, il ne l'a jamais réfuté. Il y en a, je sais qu'on a eu différentes conversations avec d'autres. Oh, c'était sur le coup de la colère, c'était sur le coup. Il ne l'a jamais réfuté. Mmh. Ou s'il l'a réfuté, c'est pas devant chez nous, c'est pas nous. Il l'a jamais regretté. En tout cas, il n'a jamais manifesté aucun regret.
Et du coup, sur les gens qu'il fréquente après-guerre, il va continuer à fréquenter aussi le petit cercle qui est à l'origine du maquis. Par exemple, Jean Véra meurt, lui, mais il continue à fréquenter sa veuve.
Non, là aussi, il a connu Jean Véra, mais c'est tout.
C'est tout. Pas,
oui. Voilà, c'est tout. Voilà.
Et sinon, vous avez parlé de... Parce que à la fois, vous le décrivez comme anticommuniste, mais une relation avec Joanneau, qui était communiste.
Oui.
C'était une relation plus personnelle entre les deux.
Oh, un peu plus personnelle. Moi, je sais que je suis allée chez Joanneau. À Paris, on est allé une fois à Paris, on est allé chez lui. Mais enfin, pas tellement. Non, c'est pas tellement personnel. Non. On peut dire qu'il est resté dans son milieu. et dans son milieu et dans ses frères du Vercors. Qu'il soit juif, qu'il soit agnostique, qu'il soit croyant, qu'il soit prêtre même. Je sais qu'il était très bien avec le père, avec l'abbé Vincent.
Avec l'abbé Vincent.
Oui. Et l'abbé Vincent, il avait toujours dit, ah, moi c'est ma belle-mère qui avait dit, il n'y aura pas de curé à mon enterrement. Alors l'abbé Vincent lui a dit, si, il y aura moi. Et puis, c'est ma belle-mère qui est allée à l'enterrement de l'abbé Vincent. Mon frère, l'abbé Vincent, lorsque mon beau-père était mourant, en somme, il avait demandé à ma mère, à ma belle-mère, s'il pouvait venir le voir. Oh, ma belle-mère m'a dit, mais bien sûr.
Et du coup, il n'y a pas eu d'enterrement religieux pour Eugène Chavant?
Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Complètement exclu. Oui. Complètement. Ah oui, mais là, c'était exclu, on savait. Et nous, on savait. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il serait enterré à Saint-Dizier. Il ne nous l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit à ma belle-mère. On s'est trouvé devant, en fait, devant, le, devant son corps, si on peut dire, avec Baudry nous disant, on va l'enterrer à Saint-Dizier. On va dire Saint-Dizier, pourquoi? Ah ben, il avait demandé à être enterré au milieu des siens. Il ne nous en a jamais parlé. Alors, mon mari, ça, lui, il a été en somme, parce qu'il faut dire, mon mari était privé de son père. Hein. Bon, d'abord, au départ, oui, du point de vue professionnel, il était monté, dès qu'il est rentré, il s'est rébellé tout de suite après la guerre, il a fait des cours du soir, et il avait une
maîtrise.
Il était
contremaître, en fait.
Hein, il était contremaître, contremaître, chef d'atelier. Et à partir de ce moment-là, il s'est quand même beaucoup déplacé. Par exemple, c'est lui qui a construit, qui a veillé à la construction du premier téléphérique du Midi, l'aiguille du Midi à Chamonix. Et ça, je le sais encore pas, ma belle-mère qui me racontait qu'en 22, ils étaient allés à Chamonix avec mon mari, donc qui avait un an, à peine un an. Il était du mois d'octobre, c'était pendant l'été, où il se baladait à quatre pattes dans le couloir de l'hôtel. Voilà. Donc je sais que c'était en 22. Il est allé en Espagne, lorsqu'ils ont, ça je sais, pour monter des machines à papier. Et puis monter je ne sais quoi encore, ça c'est en retrouvant quand on a vendu la maison de la Croix-Rouge. Et il y avait ma belle-mère, enfin mes beaux-parents, avaient décidé d'acheter un lot de terre pour agrandir un peu ce lotissement, c'était un lotissement. Et on a recherché quand on a vendu les actes de vente, etc. Et on a trouvé qu'il y avait une procuration de mon beau-père qui, à ce moment-là, était en Espagne. Un pueblo de ses où.
Pour son travail.
Pour son travail. Il a monté des machines à papier, parce que les rébellés travaillaient sur le plan international, en Bretagne. Donc, il a été absent de par son travail. Il a été absent ensuite par son engagement politique. Et mon mari, c'est ce qu'il m'a dit, quand on vole encore son corps. Moi, ce qu'il m'a dit, papa, à ce moment-là, on bâtissait à Saint-Dizier, et il s'est dit, je ne vais plus rester à Saint-Dizier. Il s'est posé la question. Puis j'ai dit, si, il a vu faire le chalet. Il a vu le commencement du soleil, il était content. Il faut finir.
Et justement, sur ce choix de... Vous avez un chalet à Saint-Dizier,
nous, je crois. En face du cimetière. Parce que là aussi, c'est beaucoup dépensé avec l'association, bien entendu, pour les cimetières. C'est lui qui s'est démené, qui est allé voir Pascal. C'est Pascal, les Pascal.
L'entrepreneur.
L'entrepreneur l'a beaucoup aidé. Pour ça, pour le cimetière de Saint-Dizier, le cimetière de Vassieux.
Il y avait un lien aussi lié au maquis avec les entrepreneurs Pascal ou...
Non.
Non, c'était.
Non. Tout au moins pas que je connaisse. On les connaissait parce qu'on les voyait, mais autrement, non. On n'a pas fréquent, on les fréquentait pas. Non.
Du coup, c'est vous qui avez fait construire le chalet à Saint-Dizier ou c'est votre beau-père qui avait commencé
Non, c'est pas mon père, c'est mon chez nous, c'est mon.
D'accord.
Mais évidemment, mon beau-père, il était au courant de tout ce qui se passait chez nous avec ce fils. Bien sûr. Et il l'avait vu, il était content qu'on aille dans le Vercors.
Dans le Vercors.
Et il vous emmenait, vous, dans le Vercors.
Oui, je l'avais raconté.
Mais vous emmenez voir les copains.
Bon, nous, on avait quand même fait le tour des
villes. Vous avez fait le tour de tout, oui.
La chapelle, enfin, on a fait tout.
Oh oui, il était resté
à Si, nous, quand il nous avait fait faire ce tour avec Chris, c'était quand même pour nous raconter l'histoire.
Oui. Hein,
pour nous apprendre le béaba, on va dire, de la Luire, la chapelle, Bassieux, Saint-Dizier. C'est une
bonne chose. Ah, c'est
Si, si, ça, je pense qu'il y avait quand même une volonté pédagogique dans ce
Oui, oui.
Alors, c'est vrai que moi, je enfin bon, moi, je me souviens quand même à maman, après, tu confirmeras ou pas, parce que toi, tu bah, évidemment, tu... Mais on a quand même l'impression que ses copains, c'était quand même plutôt des gens simples, globalement. Où je dis, enfin, mais dans le bon sens du terme, je veux dire, mais...
À plusieurs reprises, vous avez employé le terme de famille, ses frères du Vercors. Enfin, il y a cet esprit-là. C'est un esprit de famille.
Oui.
On est entre, voilà, on est comme en famille.
Ben, avec ceux, oui, par exemple, avec, même ceux qui n'étaient pas
tous. Ses grands copains, c'était qui? C'était Fatou, par exemple.
Fatou, oui. Pierre Bess, les Pierre Bess.
La famille.
Qui étaient des journalistes du Dauphiné.
Il y avait deux frères, non?
Des deux frères. Fatou et Jésus.
Ah d'accord, c'est
un... Ça, c'était des grands copains.
C'était les grands copains, oui. Mmh. Oui, oui.
Après, en plus...
Mais Georges Ravinet.
Ravinet,
c'était un communiste. Bon, mais il aimait beaucoup Robinet, il aimait Georges Ravinet voilà, comme son
ça,
fils.
Les gens, ça, c'était les vrais copains.
Quoi. C'était les vrais copains.
Ça, c'était vraiment des gens...
Dodo.
Dodo, oui, alors, je peux vous raconter qui c'était Dodo, déjà.
Ah ben, Dodo, c'était les ponts et chaussées du Vercors, de la chapelle en Vercors.
Ça vous dit quelque chose, non?
Hein? Ouais,
il est dans Ferrari, entrepreneur, il y a
Dorel.
Dorel.
Dorel. D-A-U-R-E-2-L.
D-A-U, vous dites D-A-U?
D-A-U-R-E-2-L.
Ah, ça, c'était un grand copain. Hein,
c'était le grand copain Dorel.
Et oui. Il avait été dans la résistance aussi?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Ah, oui, donc vous voyez, ouais, ça, si ça peut vous aider.
Oui, oui, ça, oui, c'est. Il l'a connu dans la résistance. Tiens.
Et vous dites que Georges Ravinet était communiste, oui.
Comment?
Georges Ravinet était communiste.
Ah oui, Georges Ravinet, était communiste.
Tu ne comprends pas avec Malossane ou...
Oh non, Georges Ravinet, je sais qu'il était communiste, il était...
Non, non, mais c'est...
Il était, lui, chez Merlin-Jean.
Oui.
Il était parti des rues.
Et après, il est devenu président de l'Amicale aussi.
Oui, il est devenu président de l'Amicale. Oui.
C'est vrai. Mais Dorel, je retrouverai... Il y a une dernière question que je ne vous avais pas posée, parce que je m'intéresse à la transmission, c'est quand même le prénom de votre fils.
Ah,
il
n'est
pas anodin, il faut...
Ben, le prénom de mon fils, notre fils, c'est quand il a... Quand, comment dirais-je, quand, il a quand on a fermé le Vercors et qu'il a proclamé la République du Vercors. Mm-hmm. Alors il a toujours dit, je ne l'ai pas proclamé la République du Vercors, je l'ai rétabli. Voilà, c'est pas moi qui l'ai proclamé, je l'ai rétabli. Et il avait une grande affiche. Et il avait, qu'on a affiché partout, sa fameuse affiche, vous l'avez vue peut-être.
Oui.
Oui, bon. Et il y avait une affiche qu'il avait signée de sa main, qui s'était signée d'ailleurs Clément, et il avait mis au dos, je donne cette affiche, qui est la seule qui reste.
Je si vous voulez,
ça permet.
Maman.
Oui. Ah oui, mais je ne pensais pas, excusez-moi.
Tiens. Ah ben, j'ai cru que c'était ça que tu voulais que j'aille chercher.
Non, c'est dans le KGB, la photo de parrain, la photo de ton grand-père, avec ce qui était de... Il était notre patron, il est toujours notre patron. Parce que finalement, tous ces copains-là, c'était resté, ils sont restés attachés à sa personne. Pour eux, c'était le patron. Et il est resté le patron. Et le plus bel article que j'ai lu au moment de la mort de mon beau-père, le Dauphiné libéré, s'est étalé, il y en avait des pleines pages. le meilleur article, c'était celui de Paul Dreyfus, Au revoir patron.
Au revoir patron.
C'était le plus beau. Et jusqu'à sa mort, c'était le patron. Et c'est encore le patron. Et du coup, ma belle-mère, c'était la patronne.
La patronne. Et justement, si on revient sur le prénom de Clément,
alors du
choix.
Coup, il demande, je, voilà, c'est la seule...
Oui, c'est ça, ben voilà, c'est tout. Et ça, ça date de quand? Ils l'ont fait quand?
C'est oh, il est mort, et ça, ça date
c'est de... C'est pas une photo, c'est plus ou moins retouché, ça,
non? Non.
C'est vraiment une photo?
Ah, oh, ça, c'est vraiment une photo. C'est vraiment une photo.
Voilà, et ça date de quand, tu dis?
Ça doit dater de... des années 50.
Voilà.
Et ben, tu sais, voilà, je sais voir pour voir, pour faire voir.
Oui, sur le patron, sera sur le patron. Et justement, vous êtes né en 47, c'est ça?
49. Alors, bon, alors donc, il nous a donné cette affiche. Et au dos de cette affiche, je donne cette affiche à mon fils André, à ma belle-fille Antonine, etc. Et en leur demandant que si un jour ils ont un fils, ils lui donnent le prénom de Clément.
D'accord. Donc, ça a été un.
Alors, quand Clément est né, ben, ça a été Clément, bien que le prénom n'était pas à la mode.
Pas du tout.
Pas du tout.
Et d'ailleurs... Du reste, l'affiche est au...
Alors, l'affiche, la véritable affiche, c'est ça. On l'a donnée au... On l'a donnée au musée de la Résistance.
Parce qu'en fait, c'était la... En fait, on l'a donnée pas tellement pour ce qu'il y avait au dos.
Non, pas tellement.
Parce qu'en fait, ils n'avaient plus de... Comment il s'appelait...
Le facsimilé.
Comment il s'appelait le gars qui s'occupait du musée de la Résistance à cette époque-là
Oui, Olivier Cogne.
Olivier Cogne nous avait dit qu'il n'avait plus d'original de cette affiche.
Oui, il n'y avait plus d'original.
Et donc, on voulait avoir la dernière, on se voit
tout. Oui, mais il mettait d'ailleurs derrière, c'est le dernier. Ouais. C'est le seul original.
Donné, voilà, parce que...
Voilà.
Donc c'est lui, c'était sa volonté que son premier petit-fils...
Si un jour on avait un petit-fils, on l'appelle Clément. On a exécuté.
Oui, donc il y a quand même, c'est une forme de... Même si c'est anecdotique, ça n'est pas complètement. Enfin, c'est quand même symboliquement très fort.
Oui. Ben, finalement, ça montrait aussi que lui, il mettait pas une croix sur tout ce qu'il avait fait.
Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison, d'ailleurs, bien sûr. Et qu'il voulait que, ma foi, que ça reste.
J'ai fait le tour de...
Et ses initiales, ses noms d'emprunt, il pensait à tout. Et il avait toujours fait attention, parce qu'à ce moment-là, les linges, le mouchoir étaient marqués aux initiales. Que ses prénoms, que ses initiales soient E.C., Eugène Chavant, E.C. Donc c'était... Ernest Clément. Et puis il a eu un autre quand il était à Saint-Roux, c'était Charvet. Mais je sais pas quel était le prénom.
D'accord. J'ai gardé les noms initiales. J'avais pas retrouvé la d'Aurel.
D-A-U-R-E-2-L-E. Il était agent des ponts de chaussée à la chapelle en Vercors. Mais tout de suite, au moment de la...
Merci beaucoup, en tout cas, pour votre disponibilité et tous ces souvenirs qui se sont transmis.
Oui. Et ma belle-mère a toujours eu l'esprit d'à-propos aussi. Parce que quand ils sont allés perquisitionner, ils ont ouvert la bibliothèque et ils ont trouvé le capital de Marx. Il est caraca de Mars. Et ma belle-mère, oui, mais regardez à côté, il y a un livre de chevalier. Chevalier qui, à l'époque, était ministre de l'Éducation nationale de Pétain.
Donc, il y avait quand même une bibliothèque avec la capitale, il l'avait lue. C'est-à-dire qu'il avait.
Ah oui.
L'ascension sociale, c'était aussi culturellement.
Ah oui, aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y avait beaucoup de bouquins encore comme ça, oui.
Merci beaucoup. Et puis, je donnerai suite. J'espère que ça va avancer. Rapidement. Juste pour la petite anecdote, j'ai rencontré là, il y a quelques temps, en région parisienne, Marc Ferraud,
ah oui.
Qui est l'historien, qui
oui,
a été,
oui.
Il est resté très peu de temps, 10 jours, il est arrivé le 12 juillet, il a été vite affecté à la cartographie, à l'état-major militaire, il a dit la même chose, c'est-à-dire que y compris les militaires, il les a entendus jurer contre De Gaulle.
Ah oui.
Le soir où ils ont senti que, voilà, il dit, ils les avaient jamais vus dans cet état-là, même eux, voilà, ont été sidérés de l'absence, alors que c'était des militaires. Mmh. Voilà, c'est le souvenir qu'ils gardent, voilà, il était très peu de temps, très peu de temps au maquis. Voilà, il a ce souvenir-là d'avoir entendu des éclats de voix, le soir,
mais enfin, nous, on n'a jamais entendu critiquer qui que ce soit. Même le gouvernement de Gaulle, enfin, il est mort, mon beau-père est mort en 69, alors. Bon.
Merci beaucoup, en tout cas.
Cet officier de la Wehrmacht, ben, cet officier de la Wehrmacht.